Les membres du club de lecture de Confluence sont réunis pour échanger autour du livre de Thomas Reverdy, Il était une ville. Cet auteur sera présent au festival Lettres d'automne qui se tiendra à Montauban du 19 novembre au 3 décembre. Autour de la table,
Jeannette,
Jean,
Françoise,
Monique,
Bernard.
Jeannette, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de Thomas Reverdy ?
Alors, Thomas Reverdy, c'est un jeune auteur. Il est né en 1974, donc il a une quarantaine d'années. Que dire de lui ? Qu'il est agrégé de lettres, qu'il enseigne. Je ne sais pas s'il enseigne toujours, mais enfin, en tout cas, il enseignait dans un lycée de la Seine-Saint-Denis. Et qu'il a déjà derrière lui une assez longue carrière. Il a écrit plusieurs romans. Alors, La montée des eaux, Les derniers feux, Le ciel pour mémoire. C'est une première trilogie dans laquelle les thèmes qui reviennent sont un peu les thèmes de la disparition, mais au sens là de la disparition par la mort. Il a perdu sa maman quand il avait 19 ans. Je pense que ça a été quelque chose de marquant pour lui. Et par la disparition, mais aussi par le désir d'écriture. Alors ensuite, plus près de nous, d'autres ouvrages, Les Évaporés, qu'il a écrit pendant qu'il était en résidence d'écriture au Japon, et qui aborde un des thèmes qu'on trouve vraiment en fil rouge dans toute son œuvre, la disparition. Alors ces évaporés, c'est le nom qu'on donne au Japon à des gens qui ont décidé de partir de la vie qu'ils menaient et de ne plus laisser de traces. Pour quelles qu'en soient les raisons. Là, en l'occurrence, il s'agit de quelqu'un qui fuit les Yakuza. Alors, celui auquel nous nous intéressons aujourd'hui, il était une ville, mais il vient de sortir un autre livre qui s'appelle
L'hiver du mécontentement.
L'hiver du mécontentement, voilà, et qui, là, se passe dans l'Angleterre des années Thatcher, ou pré-Thatcher. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire de lui. Aussi, quelque chose qui m'a intéressée, c'est que pendant ses études de lettres, il a un peu donné la préférence à des auteurs pour qui la métaphysique avait de l'importance, des poètes, Antonin Artaud, Henri Michaux et Roger Gilbert Lecomte. Peut-être qu'on reparlera de Michaux plus tard.
On peut préciser que ce livre a obtenu le prix des libraires 2016.
Et préciser aussi que les trois derniers romans qu'il a écrits ont été retenus pour le Goncourt.
Voilà, on dit qu'il serait dans la liste des finalistes du prix Goncourt.
Voilà.
On verra.
Alors, évoquons maintenant peut-être le titre, Il était une ville. Le verbe à l'imparfait évoque une ville qui n'est plus. Et Thomas Reverdy précise que le livre lui a été inspiré par un livre de photos, Les ruines de Détroit. Il dit « Le livre est venu par le lieu ». Et effectivement, on peut considérer que Détroit, la ville de Détroit, est le personnage principal du roman. L'action se situe durant l'automne et l'hiver 2008. La catastrophe, comme l'appellent les habitants de Détroit, s'abat sur la ville comme une peste, une sorte d'apocalypse lente. Et sous l'effet de la crise financière des subprimes, les banques s'effondrent et les entreprises fondées sur le crédit, automobiles et immobiliers, qui étaient déjà en crise, ferment. Les chômeurs, ne pouvant plus payer les traites de leurs emprunts immobiliers, voient leurs maisons saisies. Ils les abandonnent pour aller chercher du travail ailleurs et parfois les brûlent en partant dans l'espoir de toucher l'assurance. Et le paysage urbain de Détroit rappelle, c'est l'auteur qui le dit, le décor d'un film catastrophe ou d'une zone de guerre. Effectivement, les immeubles, les maisons sont désertées, les fenêtres murées, les cloisons abattues, les planchers effondrés. Tout ce qui a pu être volé ou récupéré, récupéré a été volé, des radiateurs, la robinetterie, des tuyaux de cuivre, des fils électriques. Des voitures sans pneus et pare-brise enfoncés rouillent sur les trottoirs. Et là où les maisons ont été brûlées, des blocs entiers de terrains vagues apparaissent. Des friches d'anciens jardins où errent des chiens devenus sauvages et des petits tas de ruines. Et la déliquescence de la ville est encore aggravée par la gestion frauduleuse du maire, qui est accusé d'extorsion de fonds. Les services municipaux, d'éducation, de santé, de sécurité, de transport, d'adduction d'eau ou d'électricité ferment ou fonctionnent au ralenti.
On n'a pas idée, je trouve, en France, de ce système de fonctionnement américain où tout d'un coup, parce que la municipalité est en faillite, ce qui est le cas là, eh ben, il n'y a plus d'école, on ne paye plus les écoles, on ne paye plus les gens dans les hôpitaux, les pompiers. Alors, je crois qu'il reste quand même des pompiers
et
quelques...
Les pompiers et la police, mais en sous-effectif. Hein, les pompiers préfèrent laisser les maisons brûler, ne pas intervenir, ça coûte trop cher.
Ouais. Il est même question de vendre les tableaux qui se trouvent dans le musée, des tableaux de nos maîtres célèbres, parce qu'on ne peut plus entretenir le musée.
Alors Détroit, c'est évidemment la ville de l'automobile, pas seulement de Ford, hein. On cite Packard, mais il y en a bien d'autres.
Chrysler.
Et au moment où commence le récit, non seulement il y a la crise des subprimes qui apporte un coût supplémentaire à la ville, mais elle est déjà frappée depuis 20 ans par une crise très grave de l'automobile américaine. Mm-hmm. Le taylorisme avait fait les beaux jours de Ford, mais ça, c'était au début du XXe siècle. Entre-temps, la robotisation s'était substituée au taylorisme. Le robot avait remplacé l'homme, mais avait remplacé l'homme surtout au Japon, en Corée, et ça a tardé à venir dans l'industrie américaine. Et donc l'industrie américaine est en crise depuis 20 ans, et donc Détroit, où une grande partie des gens travaillent directement ou indirectement pour l'automobile, a déjà subi une crise terrible au moment où commence le récit.
Mm-hmm. Moi, j'ai été étonnée par la rapidité de l'effondrement de cette ville, parce que j'essayais d'imaginer une ville en France après 20 ans de désertification. Et je pense que c'est dû aussi aux maisons en bois qui sont construites. Donc, ça s'effondre très, très rapidement.
Et ça flambe plus facilement.
Et ça flambe très, très rapidement, ce qui a probablement aidé à cette disparition, à cet effritement aussi catastrophique qu'a été Détroit.
J'avais juste envie de faire une parenthèse historique entre guillemets. Détroit, réjouissons-nous, a été fondé par La Motte Cadillac, qui vit tout près de chez nous en 1701, et d'où le nom de Cadillac pour certaines voitures.
Voilà. Mon impression en ayant lu le livre, c'est que notre auteur ne se préoccupe pas essentiellement d'économie. Je ne crois pas qu'il soit vraiment, que ce soit son sujet principal. Simplement, il a trouvé un cadre qui lui permet de faire, qu'est-ce qu'on pourrait dire, des effets à partir de ces ruines, du spectacle de ces ruines, des effets esthétiques. Il dit que, tu l'as dit tout à l'heure, je crois, que le point de départ du livre, c'est un recueil de photos de Détroit, donc avec tous ces éléments urbains en ruine. Et il dit qu'il a éprouvé une espèce de gêne en se disant « Je contemple quelque chose de beau. Ces ruines ont quelque chose de beau. » Et il faisait la différence avec les ruines, de Pompéi ou de l'Acropole, parce que ça, ce sont des ruines, mais d'une autre civilisation. Mmh. Tandis que là, ce sont les ruines de notre civilisation. Et ça, contempler les ruines de notre civilisation et trouver que c'est beau, ça peut avoir quelque chose de gênant aussi.
Oui, mais alors, les ruines qu'il contemple sont des ruines légères, tandis que quand vous parlez de Pompéi, ce sont des ruines solides.
Mais il y a les deux, je crois, là aussi, à Détroit, il n'y a pas que des maisons en bois.
Les grands immeubles sont quand même... Oui.
Dans une interview, j'ai vu qu'il n'était allé à Détroit qu'après l'écriture du roman.
Oui.
Il a trouvé que le réel était pire que ce qu'il avait imaginé. Il croyait qu'il y avait à Détroit des îlots effondrés autour d'une ville qui tenait encore debout, et qu'il a découvert une ville qui s'était effondrée et où subsistaient quelques îlots.
Alors, je ne sais pas, on peut peut-être faire un petit temps musical en écoutant Claude Nougaro nous dire « Il était une ville ».
Que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et y a plus rien. Je me souviens que je marchais, que je marchais dans une rue, au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruits. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et donnèrent étonné tout le monde à lever le nez vers le ciel angélique couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange. Est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens qui étaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant. Et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. Que s'est-il passé? J'y comprends rien. Il y avait une ville, et y a plus rien, y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence à hurler à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux. Une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi.
Bien, donc nous débattons du livre de Thomas Reverdy. Et suite à cette chanson qui évoque bien évidemment la catastrophe atomique, Jean voudrait nous lire un petit passage qui évoque les ruines de Détroit.
Oui, donc ça fera une suite à la chanson. Et j'ai dit, donc, ce que je disais tout à l'heure, là, c'est qu'il me semble, enfin, pour moi, en lisant le livre, que Thomas Reverdy est vraiment très doué pour les descriptions et l'évocation donc, de ces ruines. Le soir tombait pour la première fois sur la ville. Il y avait partout un parfum d'ailleurs. Des immeubles vides, sans lumière, sans fenêtres, murés à la brique ou à la planche de bois, découpés dans le crépuscule indigo, une masse inquiétante de géants endormis, de pierres et d'ombres. Parfois, leurs cloisons ayant été abattues pour alléger la structure, éviter qu'elle ne s'effondre, ils avaient au contraire l'allure ciselée de cathédrales. On y voyait le ciel passer à travers, comme dans un vitrail. Voilà. Donc, on a parlé pour d'autres peintres, à d'autres époques, de poésie des ruines. Mais là, il me semble qu'on est aussi dans la poésie des ruines.
Ce que je trouve intéressant là, dans cette poésie des ruines, c'est que finalement, si ces ruines vont revenir à la vie, enfin, vont être réinvestis, c'est parce qu'il y a des personnages qui ne lâchent rien. Je trouve que ça vaudrait la peine de parler de ces personnages qui ne lâchent rien.
Oui. On en parlera tout à l'heure, à la fin peut-être. D'abord, je voudrais dire que donc, le livre est venu par le lieu. Et que, bien sûr, Thomas Reverdy étant un romancier, il y a implanté des personnages et des situations, et comme il dit, ça se tricote. Et le roman propose en effet des récits alternés de la vie de plusieurs personnages durant 4 mois à Détroit, en automne et en hiver 2008. Et ces personnages, chacun de ces personnages, dit-il, suit sa ligne et certains se croisent. On peut dire que certains même se rencontrent. Les personnages principaux appartiennent à 3 générations. Il y a des enfants, Charlie, Bill, Strothers. Il y a des adultes, Eugène et Candice, et il y a des personnes plus âgées, Georgia, la grand-mère de Charlie, et le lieutenant Brown. Alors, si vous voulez, maintenant, découvrons l'histoire et les personnages à travers les genres littéraires qu'exploite le roman. Thomas Reverdy dit lui-même que c'est à la fois un roman d'aventure et un roman policier. Roman d'aventure parce qu'il met en scène des petits-enfants, enfin des préadolescents qui fuguent et qui vont essayer de vivre une vie d'aventure dans la zone, et roman policier puisque un lieutenant va rechercher l'un d'entre eux, Charlie, dont la grand-mère a signalé la disparition. Jeannette, tu voudrais nous parler
de ses enfants. Oui, dans l'histoire, donc, on va suivre, comme tu disais, certains héros de l'histoire, on reviendra sur eux, mais on va suivre l'épopée de quelques enfants. Alors, ils sont assez emblématiques de la façon, de la déliquescence de la ville, en ce sens qu'il y a une centaine d'enfants qui ont disparu. Ce fameux lieutenant Brown essaye de tenir des fiches à jour, au cas où on les retrouverait, morts ou vifs. Et cette centaine d'enfants a suivi un peu comme les enfants du joueur de flûte de Hamelin, un joueur de flûte un peu particulier, un dealer, Max, qui, il suffit qu'il leur promette quelques billets pour qu'ils viennent avec lui. Alors, ils squattent une école désaffectée qui se trouve au milieu d'un no man's land appelé la zone, zone dans laquelle Eugène, le héros français de l'histoire, doit venir reconstruire une usine dans laquelle on construirait l'intégrale. Alors au passage, on ne sait pas trop ce que c'est, tout ça reste flou, aussi flou que les projets de l'entreprise avec un E majuscule qu'il a dépêché pour reconstruire cette ville. Alors ces enfants, trois d'entre eux sont emblématiques de tous les autres. Strother. Ses parents, sa mère est remariée et le beau-père, manifestement, n'a aucune envie de s'occuper de lui. Bill, celui qu'on appelle le gros, vit dans une famille monoparentale. Sa mère, qui doit boire, qui doit se droguer, enfin on ne sait pas trop, tient à lui, mais le lui manifeste en lui flanquant des raclées absolument monumentales chaque fois qu'il a fait une bêtise. Et le plus attachant, enfin celui auquel on s'attache le plus, et l'auteur aussi sans doute, c'est Charlie, qui est un petit maigre, qu'on appelle d'ailleurs Skinny, et dont la grand-mère, Georgia, l'élève et a le souci de lui. Bon, alors, ces trois enfants, on peut rapidement dire ce qui leur arrive. Eh bien, un jour, ils décident de faire un feu dans une de ces maisons abandonnées. Ils achètent des bidons d'essence, ils y mettent le feu et ils contemplent l'incendie de la maison, la chute des poutres, enfin, etc. C'est une assez belle description. Ils reviennent chez eux couverts de cendres, essayent de se glisser dans leur lit sans trop se faire remarquer. Charlie se fait remarquer par sa grand-mère qui lui montre justement qu'elle a trop peur pour lui. Bon, à la suite de ça, ces enfants vont, l'un d'entre eux, Bill, avoir une raclée monumentale de sa mère et vont décider de partir. Mais ils partent à l'aventure. Strother leur parle d'un endroit qu'il connaît, qui serait une espèce d'îlot trésor, enfin, un lieu comme un type où ils trouveraient des tipis d'Indiens. Enfin, ils ont envie de jouer aux Indiens. Voilà.
Et c'est ce fameux squat.
Et c'est ce fameux squat, voilà, ce squat d'école dans lequel ils vont vivre.
Oui, mais ce que je veux dire, ces enfants, en fait, ont une enfance qui est presque heureuse, parce qu'ils s'amusent tout le temps. Oui. Et quand ils font brûler la maison, c'est très très bien décrit, c'est comme Néron qui regarde brûler Rome. Il voit des gerbes de feu, ça les enthousiasme. Seulement, après, ils ont peur d'avoir été dénoncés. Ce qui fait que le Bill, ayant reçu une correction, le petit chat, Charlie, ayant peur d'être dénoncé, décide de suivre le troisième qui, lui, sait déjà où aller. C'est pas, ils partent pas vraiment à l'aventure, ils partent chez le dealer.
Ils partent chez le
dealer.
Alors
justement, je souligne ce que tu dis, Monique. Il y a un univers, c'est la guerre des boutons, un univers vraiment infantile, jusqu'au moment où on tombe dans un univers mafieux. Ils sont toujours préadolescents, mais ils ont des comportements d'adultes. Et c'est un univers mafieux avec toute la rigueur, toute la cruauté d'un univers mafieux, dans ce fameux squat dont tu parlais tout à l'heure.
Oui, mais cet univers mafieux existe déjà dans les romans de Dickens, par exemple, où il y a des souvenirs aussi de Mark Twain. Dans ce, il y a notamment un chapitre qui s'intitule Huckleberry Finn. Donc c'est un clin d'œil direct à Mark Twain. Et donc il y a ces groupes d'enfants qui essaient d'organiser une espèce de colonie autonome. C'est un souvenir, il me semble, de Dickens ou de Mark Twain.
C'est-à-dire qu'eux l'ont conçu un petit peu au départ comme de magnifiques grandes vacances. Et puis, ils se rendent compte, finalement, qu'ils sont tombés dans un piège. C'est d'ailleurs Charlie qui le dit. Hein. Bon, certes, ils improvisent une danse de la pluie, ils sont tout contents, mais Charlie se dit, mais dans quoi suis-je tombé?
Je voudrais faire remarquer que quand vous avez présenté les personnages, il y en a quatre en fait, mais le premier dont on n'a pas encore parlé, c'est Eugène. Et ces personnages sont assez indépendants les uns des autres. En fait, vous dites qu'ils se croisent. Ils se croisent parce qu'ils voient par la fenêtre une école, mais c'est un croisement extrêmement ténu. Je trouve que les personnages sont, explicités par l'auteur, présente des cas très différents les uns des autres. Donc il a illustré les retombées catastrophiques que ce que peut présenter une désagrégation d'une société. Il y a l'ingénieur qui va s'en sortir, il y a les enfants qui vont vraiment payer, et le bon flic qui va finalement gagner parce qu'il faut une fin presque heureuse. Non. Mais ce sont des personnages très indépendants.
Oui. On oublie un personnage très important qui est le personnage féminin.
Oui,
mais qui, on va le dire.
On va en parler.
Et il y a Candice dont je voulais parler.
Oui, ben on en parlera. Mais est-ce qu'on pourrait insister un petit peu sur l'aspect polar, policier, roman policier? Il y a quand même le thème de la disparition.
Ce n'est pas vraiment un roman policier.
Si, un petit peu, avec le lieutenant Mambron qui recherche Charlie.
Oui. Si. Il y a quand même le dénouement au moment où ça se passe.
Et qui ne le trouvera pas, d'ailleurs.
Il me semble que ce n'est pas le sujet principal.
C'est pas le sujet principal.
Mais quand même, c'est lui qui l'évoquait.
C'est vrai qu'il y a quand même ce suspense, parce que du fait que c'est coupé en chapitres, l'un d'entre nous parlera peut-être du style, en chapitre court, on se dit que va-t-il arriver à Charlie, que va-t-il arriver à Bill. Alors il y a quand même le capitaine ou le capitaine, le lieutenant Brown, va-t-il se faire tirer dessus ou va-t-il s'en sortir? Il y a des moments quand même où on a peur pour les héros.
C'est un personnage aussi quand même, me semble-t-il, attachant. Brown, il a des qualités, il est entêté, il est doux. Et je crois qu'il est à rapprocher peut-être de personnages plus positifs de l'histoire que sont Eugène et Candice. Et donc
il y a Candice, François.
Oui. Et il y a Candice, dont nous allons parler.
Bernard Piétine,
sourire rouge de Candice. On dit de ce roman que c'est un pamphlet pétri d'humanité. Et justement, je pense que les personnages de Eugène et de Candice peuvent être représentatifs de
Cela. Il m'a semblé qu'effectivement, le livre indiquait comment survivre dans un monde complètement déglingué. Comment, arriver à organiser une vie, à organiser un avenir dans un monde complètement détruit, dans cette espèce de ville fantôme. Et à un moment, on dit à propos du personnage principal que c'était un optimiste.
Tu peux nous rappeler qui c'est?
Eugène. Donc oui. Eugène, on dit au fond, c'est le narrateur qui dit au fond, c'était un optimiste.
Hein? C'est pas forcément le principal, c'est un des personnages.
C'est quand même autour de lui que
qui
commence l'histoire et finit l'histoire.
Jean, peut-être. Moi, je présenterai Candice.
Alors, c'est effectivement, pour moi, c'est quand même un personnage qui, je répète, commence l'histoire, termine l'histoire, et un personnage qui va évoluer tout au long de l'histoire. C'est quelqu'un qui vient avec des projets d'organisation, de développement industriel, et qui finalement va se rendre compte que s'il n'y a pas d'avenir pour lui dans cet ordre-là, et qui va donc au cours du livre, comprendre qu'il faut qu'il change de vie.
Voilà.
Oui, mais il y a un fait, c'est que cet Eugène, qui est ingénieur, avait déjà fait un stage en Chine de 2 ans, où il avait été très malheureux parce qu'il était toujours surveillé. Et
peut-être plus encore qu'à Détroit.
Beaucoup plus, parce qu'à Détroit, il était relativement libre. Il n'avait pas de réponse de ses supérieurs, mais il était libre. Donc, il ne se fait pas beaucoup d'illusions. Je pense qu'il est déjà prêt à accepter la situation. Quand il voit que cette situation américaine n'arrivera jamais parce que ceux qui l'ont commandité se désintéressent complètement de cette ville, il a eu la chance de rencontrer cette femme qui est bariste et c'est son premier foyer. Il va prendre pied grâce à cette femme.
Donc finalement, la catastrophe pour lui... La catastrophe pour lui est une chance.
En opportunité, grâce à Candice.
Elle lui permet de réinventer sa vie.
Voilà.
Dans un sens, c'est un auteur qui aime bien les bonnes fins, parce que lui, l'amour va le sauver, le petit Charlie va être sauvé par le bon flic, finalement, il n'y a qu'à mort.
Mais c'est vrai qu'il y a finalement, au fond, malgré toute cette noirceur, il y a un optimisme.
Il y a un optimisme
fondamental.
Mais ça vaut la peine que tu parles de Candice, Jean.
Oui.
Bernard, pardon.
Merci. Alors Candice, effectivement, tu viens de dire, Monique, tient barre. Elle garde ses distances. Elle garde ses distances par rapport à ses clients. Elle est avenante. Elle a un sourire rouge. Elle est sans doute très belle. Mais elle garde ses distances par rapport à ce qui arrive dans la ville. Même si... Alors, voilà. On ne sait pas si elle est noire ou blanche. Elle a des cheveux crépus, comme tu viens de dire. Mais on ne le sait que dans une description tardive. Du personnage. Pendant longtemps, on ne sait pas si elle est noire ou blanche, mais
finalement,
dit, peu importe.
Finalement, ça n'a aucune importance.
Peu importe. Bien sûr, à Détroit, 80% de la population est noire, mais peu importe. C'est pas ça qui la caractérise nullement. Elle prend ses distances et tout ce qui lui arrive, et il lui est arrivé des choses difficiles dans sa vie. Il y a des évocations de sa vie d'avant où elle a fréquenté des personnages peu recommandables. Elle s'en est sortie, elle en parle peu, elle rebondit, tout ça a glissé sur ses plumes, si j'ose dire. Elle s'en sort. Et effectivement, elle aide aussi Eugène à s'en sortir, comme elle a dû aider à s'en sortir beaucoup de ses clients. Simplement en étant là, simplement en étant leur bouée de sauvetage.
En créant de la chaleur.
En créant de la chaleur, en créant une référence qui leur a permis peut-être de rebondir. Alors à Eugène, effectivement, ça apporte beaucoup plus. Il a évoqué Monique. Effectivement, ils tombent amoureux l'un de l'autre.
Oui,
pas seulement Eugène de Candice, mais aussi Candice d'Eugène. Et c'est dit de façon assez subtile, je trouve. Et je voulais dire juste un mot par rapport au style, on y reviendra, mais de Reverdy, qui ménage parfois des surprises, qui peut être picaresque, qui peut presque évoquer Rabelais. Et ça, je vais vous lire juste quelques lignes des premiers ébats, mais qui ne viennent pas tout de suite, qui sont après une période d'apprivoisement mutuel, les premiers ébats de Eugène et de Candice. Alors il se passe quelque chose. Ils basculent comme on chavire. L'un sur l'autre, leurs corps s'étendent, se cherchent à tâtons, se respirent, se renversent, s'abouchent et s'enlacent. Ils sont nus à présent et leurs mains ne tremblent plus. Ils s'embrassent, dans un goût de rouge et d'eau. Ils roulent comme on tombe dans un rêve, au ralenti d'une chute qui n'a pas de fin. Ils se frottent, se collent l'un à l'autre. Ils respirent fort, juste pour sentir leur ventre se toucher. Ils se plaquent, s'attrapent et se rattrapent sans cesse. Leurs cuisses se mélangent et leurs corps se pressent. Leurs fronts, leurs épaules, leurs poitrines sont moites et perlent déjà de sueur. Bon, ça continue comme ça sur une dizaine de lignes. C'est relativement chaste. Rien n'est dit, c'est évoqué, rien n'est dit. Mais surtout, il y a cette accumulation de mots, de verbes, d'adverbes qui me rappelle Frère Jean des Entomures dans Rabelais.
Oui. Alors, on pourrait dire que écrire une scène d'amour, c'est très très difficile. Et il y a, il me semble que là, il reste à mi-chemin. Mais bon,
c'est sa façon de
Il y a quelques-uns du groupe qui avaient trouvé que cette scène d'amour était un peu nunuche. Moi, ce n'était pas l'effet qu'elle m'avait fait.
Moi, c'est un peu l'effet qu'elle m'a fait.
Cet effet. Alors, par contre, peut-être éclairé par le fait que l'auteur a une passion pour Michaud, ça m'a rappelé Le grand combat de Michaud. Et du coup, ça prend, enfin, je trouve que ça prend une autre profondeur. Il y a un côté aussi un petit peu ironique. Il n'a pas seulement écrit cette scène pour nous faire frémir dans nos chambrettes. Enfin, il l'a écrite aussi peut-être en décalage. Je vous lis juste les premières lignes du grand combat de Michaud. Il l'emparouille et l'endosque contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son râle. Il le pratelle et le libuque et lui baroufle les ouillets. Il le tocarde et le marmine, etc. etc. Mais, comment dire, il y a de ça, je trouve. Et je n'avais jamais lu Le Grand Combat en pensant que ça pouvait être une scène d'amour.
Mais alors, Michaud me rappelle plus Colette Renard dans son évocation.
Mais alors, faisons comme Eugène et Candice, essayons un peu de tendresse avec Aretha Franklin.
Women do get weary wearing the same shabby dress, but to one who's weary, try a little tenderness. Oh, waiting, just anticipating all of the things I may never possess. But while I'm waiting, try a little tenderness. But I want to say that I've had my griefs, oh, and I've had my cares, and just a good word, soft and gentle, makes it easier. Easier to bear. Now I might forget it. Oh, but don't let me forget it. Love's all my hope.
Bien. Donc, le cercle de lecture de Confluence est en train d'évoquer le roman de Thomas Reverdy, Il était une ville. Et nous venons d'entendre une chanson d'Aretha Franklin qui était elle-même native de Détroit. Jean, tu voudrais nous dire quelques mots de plus sur Candice?
Oui, on a parlé donc de ce personnage féminin qui joue un rôle très très important en fait, même qui joue un rôle, disons, de sauvetage, on pourrait dire, du personnage qui s'appelle Eugène. Et on n'a pas parlé non plus pour le moment de l'évocation qui revient à plusieurs reprises de Taylor, donc ce, comment on peut dire, théoricien de l'organisation totalement rationnelle du travail. Et à un moment donné, il est dit que cette Candice, dont Eugène va tomber amoureux, échappe, elle, à Taylor. C'est-à-dire qu'elle est capable de saisir le hasard dans sa vie, qu'elle est capable d'improviser et de saisir donc ce qui se présente comme ça de façon inattendue. Et ça, c'est totalement contraire donc à l'esprit Taylor qui veut tout rationaliser et qui veut surtout empêcher justement l'intrusion du hasard et tout prévoir. Or, pour notre auteur, je crois que, justement, il ne faut pas tout prévoir, mais qu'il faut savoir saisir le hasard, savoir saisir les opportunités. Et donc, c'est comme ça qu'elle va, d'une certaine façon, lui apprendre la vie, la vraie vie.
C'est-à-dire que la grosse critique du taylorisme, c'est le fait que les ouvriers étant obligés, contraints à faire le même geste toute la journée, ne réfléchissaient plus.
Voilà.
Tandis plus que Candice, elle est libérée, elle peut voir les opportunités qu'elle a dans la vie, alors que
elle peut inventer sa vie.
Les esclaves ne peuvent pas faire.
Il est dit dans le livre aussi que l'influence de Candice, Eugène, qui n'était pas du tout sensible au talent personnel, devient sensible au talent, aux gestes conçus et réalisés en entier. Par exemple, quand il fait réparer sa Mustang, il est ébahi de voir les mécanos arriver à détecter la panne et à la régler très rapidement. Et à la fin, je trouve qu'il y a une fantastique évolution de ce talent. C'est ce petit garçon de 12 ans, Charlie, qui va aménager une luge avec une boîte, enfin une caisse en bois et des skates dont il a enlevé les roues. Il va faire un levier de direction et de frein avec une tige de selle de vélo.
Donc ça, c'est le contraire du travail fragmenté. C'est le travail considéré donc dans sa totalité, hein, avec
C'est ce qui va sauver
final.
L'enfant.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc je pense que ça, c'est une des grandes leçons du livre.
Oui.
Et en même temps aussi, on parlait de la disparition, qui est le fil rouge chez Reverdy. Il y avait la disparition des enfants, mais il y a une autre disparition qui est celle de l'ancienne Eugène au profit du nouvel Eugène. Enfin, j'écoutais une interview de Reverdy dans laquelle il disait qu'il était très sensible à ces moments où on se dit qu'on n'est pas dans sa vraie vie et où il vaut mieux essayer de rompre, de faire une rupture franche et de vivre autrement.
Voilà. Ouais. Et deux citations pour appuyer cela. Lorsque Candice sourit en le voyant, Eugène a le courage de vivre. C'est un tel terrain pour tout recommencer, Détroit, le monde qu'ils nous ont laissé. Il s'agit d'y réinventer la vie.
Il y a un autre personnage dont on n'a pas assez parlé jusqu'à présent, c'est la grand-mère de Charlie, qui est finalement un très très beau personnage. Oui. Elle est ancienne. Elle a vécu des jours meilleurs. Sa fille, donc la mère de Charlie, a disparu et c'est elle qui s'occupe avec grande difficulté de l'éducation de ce petit garçon qui lui échappe presque toute la journée, mais elle l'aime beaucoup. Elle lui fait savoir pendant qu'il dort ou qu'il fait semblant de dormir. Et il y a un très joli passage où lorsqu'il revient après avoir mis le feu à la maison, elle s'assoit près de son lit, lui fait semblant de dormir et elle lui pardonne tout. Elle lui dit combien elle l'aime et combien il peut avoir confiance en sa grand-mère. Et quand cet enfant s'en va avec ses deux copains à l'aventure, il laisse sa grand-mère, mais il dit « je vais quand même lui écrire ». Et il pense toujours à sa grand-mère. Et quand il s'est retrouvé prisonnier et qu'il décide de s'échapper de ce guet-apens où il y a eu crime, il pense à sa grand-mère et c'est probablement ce qui le sauve. Et de même que la grand-mère est une des rares qui s'occupe des enfants à avoir signalé la disparition, parce que les autres mères étaient...
Oui.
Donc le personnage de la grand-mère est très important comme personnage plus que rédempteur, qui a su insuffler à cet enfant ce que c'est qu'un amour, un vrai attachement entre
Oui. C'est vrai, pour compléter ce que tu dis, je trouve que les personnages positifs de ce roman sont les personnages qui ont le souci d'autrui et qui cherchent. Il y a le lieutenant Brown qui cherche, parce que ce sont des gosses qui ont disparu et il faut savoir ce qu'ils sont devenus. Bon, et même s'il ne retrouve pas Charlie, il le cherche. Il y a la grand-mère qui n'abandonne jamais, qui veut trouver son petit-fils. Et puis il y a aussi Charlie lui-même qui va chercher Bill et qui ne le trouvera pas. Les personnages qui ont le souci d'autrui, qui cherchent, sont ici les héros positifs, je trouve.
Et il me semble qu'il y a aussi une habileté du narrateur à propos de la disparition. Enfin, on annonce qu'un enfant est mort. Et le lecteur tremble aussi avec la grand-mère.
Oui.
Et on ne va pas révéler la suite, mais là, le lecteur vraiment est associé au personnage de la grand-mère et voudrait tellement que cette horreur n'ait pas eu lieu.
Alors, on est soulagé quand on découvre.
Mais je disais qu'on ne dirait pas.
Non, disons qu'on souligne l'habileté de la construction.
Qui veut nous parler du
Thomas
style
Reverdy.
Un petit peu du roman
Jean? Alors, on pourrait. Oui.
Bernard?
Non, moi j'ai fait.
Oui.
On pourrait inciter les éventuels auditeurs à lire le livre parce qu'il est facile à lire, il est découpé en courtes séquences. Qui chacune porte un titre, et il me semble qu'il y a vraiment une lecture qui est facilitée et qui est intéressante. Là, il y a quelque chose de très visuel, un peu cinématographique finalement. Hein. Chaque séquence donne à voir quelque chose, une scène, une scène vue.
Oui, mais bon, certains ont été désorientés un petit peu par cette alternance de récits qui ne parlent pas de la même chose chacun, mais finalement, on s'y fait très vite.
Oui, au contraire, c'est un des fils conducteurs du récit qui est très, très habile.
Mm-hmm. Bien. Jeannette, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de Détroit aujourd'hui? Parce que bon, le livre a été écrit en 2008 et qui est devenu Détroit 10 ans plus tard.
Alors, je suis tombée sur un article illustré largement du Figaro qui fait le point sur ce qu'est devenu Détroit aujourd'hui. Alors on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand même il y a des initiatives fortes d'individus. Peut-être que leurs motivations ne sont pas totalement pures, parce que ce sont l'un d'entre eux qui s'appelle Gilbert et la 91e fortune d'Amérique. Je pense que ça doit représenter beaucoup d'argent. Mais enfin, il a racheté par exemple l'usine Paccard et il a décidé que dans l'usine Paccard, il allait reconstruire des immeubles, enfin, et recréer de la vie. Parce qu'on a dit que Détroit était un peu comme un donut, c'est-à-dire vide au milieu. Le centre-ville s'est complètement désertifié, devenu un coupe-gorge et c'était les banlieues autour qui étaient à peu près encore potables. Alors, on appelait Motor Town Détroit, puisque c'était la ville de l'automobile. Et elle est devenue Bike Town parce que on y développe des pistes cyclables et il y a beaucoup de fabrication de vélos, de gens qui louent des vélos. Parce que, étant donné que c'était une ville très dangereuse, le prix de l'assurance automobile était de $800 par mois, ce qui est colossal et qui faisait qu'un certain nombre de gens qui auraient eu un travail, ne pouvaient pas s'y rendre parce qu'il n'y avait aucune infrastructure de transport public et que 800 euros, ils ne pouvaient pas les payer. Donc, ils ne pouvaient pas se rendre sur leur lieu de travail. Donc ça s'améliore. Et on a créé au moins une ligne. On reconstruit des immeubles et il y a énormément de bénévolat. Alors, je parlais de Gilbert, mais il y a un autre personnage qui s'appelle John G. George, qui a institué une association qui s'appelle DDB. Alors, je vous dis ce que ça veut dire en américain, Détroit Blight Busters. Et alors, il a recruté 10 000 bénévoles. Et avec ces 10 000 bénévoles, ils commencent par détruire les maisons en ruine et dangereuses, les immeubles qui menacent de tomber, de façon à faire table rase et à reconstruire. Alors, ce qui donne quand même aussi un peu d'espoir, c'est que les reconstructions qui se font de façon écologique. Et que apparemment Détroit va devenir aux États-Unis l'une des villes plus écologiques.
À l'appui de ça, d'ailleurs, c'est une des villes les plus en avance dans ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. C'est effectivement, il y a eu la reconquête d'un certain nombre de terrains, parce qu'avant qu'il y ait Détroit au XVIIIe siècle, c'était une zone très riche du point de vue naturel. Et là, on reconstruit, on a réimplanté de la culture en ville de façon très organisée. Ça, c'est un premier point. Mais aussi, il y a un certain nombre de groupes industriels, dont Ford, qui se réinstallent à Détroit.
Oui.
Alors, sous une forme très différente, mais qui se réinstallent à Détroit.
Et également à cause de ce passé de la ville, qui était un passé très, comment dire, très jazz, enfin très blues. Ah oui, on parlait d'Aretha Franklin qui est morte là récemment à Détroit. Il y avait une firme Motown qui publiait tous les standards de jazz. Et on vient de recréer une autre firme qui, elle, édite des 33 tours, enfin des disques vinyles. Voilà. Bon, tu parlais de... Il y a un nombre assez important de jardins partagés qui permettent de nourrir un nombre de foyers considérables et de les nourrir avec du bio.
Finalement... Mais de façon organisée, de façon construite, voilà. De façon durable.
Alors apparemment, si on dit que Détroit est un vrai monopoly, qui a l'air d'attirer quand même les promoteurs du monde entier, il y a des Français, enfin, donc peut-être que je disais, leurs intentions ne sont pas que pures, mais enfin, la ville a l'air de renaître.
Sans perdre de vue que c'est quand même une situation remarquable au bord des Grands Lacs.
Oui.
C'est quand même pas mal.
Oui. Rappelons la devise de Détroit quand même. Nous espérons des jours meilleurs et qu'elle ressurgisse de ses cendres.
Bon, peut-être que oui, effectivement. Ça correspond tout à fait, il me semble, à ce qu'est la préoccupation essentielle de notre auteur, c'est-à-dire comment continuer à vivre, essayer d'être heureux dans le monde tel qu'il est. Et ça, il le dit, il le dit dans ses interviews, il dit que c'est ce qui l'intéresse, c'est-à-dire comment les nouvelles générations, finalement, arrivent à se débrouiller, à organiser une vie qui soit la plus heureuse possible dans ce monde tel qu'il est, même s'il est déglingué.
Oui. Donc, nous vous laissons maintenant le soin de lire le livre et d'en découvrir les richesses. Et nous allons passer... aux annonces de Confluence pour les jours à venir.
Pour le mois d'octobre. Alors d'abord le 18 octobre à La Femme Renard, un café philo qui est un pré-café philo, si j'ose dire. Il y en aura deux autres dans la perspective de Lettres d'automne. Robert Artois, le premier s'intitule Passé, ER. Ensuite il y en a un autre qui s'appellera Partir, je crois, et un troisième qui s'appellera Ailleurs. On est cette année à Confluence sur le thème des passerelles du temps. Le 24 octobre à 14h30, c'est pendant les vacances, un atelier illustration pour les enfants à partir de 7 ans qui s'appelle Flip Flap. Et enfin, notre prochain cercle de lecture qui parlera du livre d'un autre invité de Lettres d'automne, Andrei Kourkov, Le concert posthume de Jimi Hendrix, et qui aura lieu le jeudi 15 novembre à 14h15.
Voilà, et maintenant nous allons nous quitter sur la chanson « My Girl » des Temptations. C'est une chanson qui date de 1965 et c'est surtout la chanson qu'écoute Eugène avant de quitter définitivement son bureau pour retrouver Candice. Et la chanson, c'est Thomas Reverdy qui le dit, l'emporte loin du froid dans un mois de mai éternel, qui rappelle aussi la chanson de Claude Nougaro que nous avons passée au début de l'émission. Voilà, au revoir et au mois prochain.
talking about.